c'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur les sommets des glaciers, ces amas de glace qui se forment avec le tassement de couches de neige accumulées. Cette glace joue un rôle essentiel dans notre climat et pourtant elle est impactée par les activités humaines et le réchauffement climatique. Nous en discutons avec Amel Landé, glaciologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement rattaché au CNRS. Également avec nous Jérôme Chaplaz et Antoine Rabatel, tous deux travaillent à l'Institut des géosciences de l'environnement avec nous depuis les studios de France Bleu Isère à Grenoble. Et la glace a de quoi fasciner. D'ailleurs, elle a toujours captivé Claude Lorius dès son plus jeune âge. Le célèbre glaciologue français a réalisé sa première expédition à l'âge de 23 ans en 56 en Terre Adélie en Antarctique. Il a ensuite pris part à plus d'une vingtaine d'expéditions polaires, souvent sur ce même continent.
Un jour, on était en train de forer au bord de la terre, sur la côte à Terre Adélie, et puis on en avait un peu marre. On avait retiré une carotte de 100 mètres de profondeur. Et puis, au lieu de garder ça pour faire des analyses, on s'est dit, on va boire un coup. On avait du whisky, et on a mis les flacons dans le whisky, et on a vu tout d'un coup les bulles se dégager. Et l'idée était de dire, mais d'où viennent ces bulles? Alors il a fallu une bonne douzaine d'années pour montrer que ces bulles, c'était des témoins de l'atmosphère du passé. Elles avaient conservé la composition de l'atmosphère. Et donc, dans les carottes, essentiellement, on trouve trois choses. D'abord, le moyen de reconstituer la température du passé en analysant la glace. La glace, c'est de l'eau solide, hydrogène, oxygène, et on analyse ça, on est capable de reconstituer la température. La deuxième chose, c'est, et là c'est quelque chose d'unique, ces bulles d'air sont les seuls témoins de la composition de l'atmosphère qu'on ait. On mesure la composition de l'atmosphère depuis à peu près 50 ans. Avant, on ne savait pas. Et nous avons maintenant près d'un million d'années d'archives. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et la troisième sorte d'information qu'on peut obtenir, ce sont ces fameuses poussières qui nous montrent que les explosions nucléaires, eh bien, ça se balade tout autour de la Terre et qu'on va les retrouver au pôle sud, bien sûr, alors que les expériences ou les tirs n'ont pas été menés là-bas. L'Antarctique, c'est formidable parce que il n'y a personne et c'est justement là-bas qu'on découvre une pollution globale, si vous voulez, c'est planétaire. Le CO2 là-bas, c'est quasiment le même qu'ici, chez nous. Et ces poussières, elles ne devraient pas être là, elles viennent de l'autre bout de la Terre.
Difficile de parler de la glace sans évoquer son nom. Et nous revenons ici sur l'histoire même de la glaciologie, de l'étude de la glace. Claude Lorius, que nous venons d'entendre, a inspiré au réalisateur Luc Jacquet un beau documentaire « La glace et le ciel » sorti en 2015. Je vous propose d'en écouter un extrait. Fermez les yeux, imaginez-vous un instant une vaste étendue blanche, la neige qui craquelle sous vos pieds et l'horizon à perte de vue.
Tout est à faire ici. Jamais un scientifique n'a recueilli la moindre donnée météo ou géophysique. Nous avons la foi des pionniers. J'éprouve une joie intense à chaque mesure, à chaque observation, doublée de la fierté d'être le premier. C'est vertigineux. Le trait des enregistreurs révèle pour la première fois la silhouette de vallées, de montagnes ensevelies depuis des millions d'années, sous 2000 mètres de glace. Un continent englouti. Je comprends à ce moment-là toute l'étendue du pouvoir de la science. Voir l'invisible. Je veux éprouver encore et encore le frisson de la découverte. Mon destin est scellé. À Charcot, il y a de la neige. Alors j'étudie les cristaux. D'abord simplement pour voir s'il n'y a pas quelque chose à découvrir. Pourquoi les neiges d'été ont-elles des grains plus fins que celles tombées en hiver? Leur épaisseur me raconte des hivers neigeux ou, au contraire, de longues périodes sans précipitation. Les cristaux, je me rends compte qu'il n'y en a pas deux de semblables. Leur forme singulière témoigne de l'histoire de chacun. Intacts dans leur prime jeunesse, ils s'arrondissent, se transforment, poussés vers le fond par le poids des neiges plus fraîches. J'imagine leur voyage que j'apprendrai plus tard à mesurer. Je les vois glisser imperceptiblement vers les profondeurs. La glace est un fleuve dont l'immobilité n'est qu'apparente. Un flocon mettra 50 000 ans à rejoindre la côte avant de s'allonger sur l'océan. Rompu par les marées, il deviendra iceberg. Poussé vers les mers chaudes, il fondra. Devenu eau, il embarquera pour le grand voyage des courants océaniques. Pris par le soleil, il deviendra vapeur et regagnera le ciel pour retomber là, un jour peut-être, à une échelle de temps qui réduit mon existence à peu près rien. J'entends beaucoup parler des travaux de glaciologues suisses et danois qui ont obtenu des résultats remarquables au Groenland grâce à un nouvel instrument de mesure, le spectromètre de masse. Je décide de faire une thèse en adaptant leur protocole à l'Antarctique. Le spectromètre me plonge pour la première fois dans le monde invisible des atomes. Il y a deux formes d'hydrogène différentes dans la neige, une lourde et une légère. Quand il a fait froid au moment de la chute de neige, on trouve beaucoup d'hydrogène léger. Quand il a fait plus chaud, on trouve majoritairement la forme lourde. Je découvre que la proportion entre les deux suit très exactement la graduation de la température. Le thermomètre isotopique est né. C'est une découverte extraordinaire. Il suffira désormais d'analyser au spectromètre un échantillon de neige ou de glace pour connaître très exactement la température qu'il faisait le jour où ces flocons sont tombés, même si cela s'est produit des milliers d'années en arrière.
Extrait du documentaire « La glace et le ciel » sur le glaciologue Claude Lorius, avec qui, Amel Landais, j'imagine que vous partagez la même passion pour les calottes polaires.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose de magnifique, déjà du point de vue naturel, en fait, et c'est assez unique d'aller sur ces calottes polaires. Et ensuite, du point de vue scientifique, c'est aussi quelque chose de toujours extraordinaire, de nouvelles découvertes se font dessus, de comprendre ce qui s'est passé avant, de comprendre le climat. Voilà, donc c'est des découvertes de chaque jour, et puis c'est effectivement un matériau toujours très agréable à manipuler.
Claude Lorius a beaucoup étudié la composition des inclusions de gaz au sein des glaces polaires. Alors à quoi ça sert d'étudier ces gaz-là ?
Alors, dans les bulles d'air qui sont piégées dans la glace, donc quand la neige se transforme en glace, on peut faire effectivement des tas de mesures puisque c'est vraiment l'atmosphère qu'il y avait à l'époque où ces bulles d'air se sont formées. Donc, les études les plus importantes, en fait, d'un point de vue sociétal, ce sont les études de gaz à effet de serre qui sont faites notamment à Grenoble. C'est Claude Lorius qui avait initié tout ça. Donc, les gaz à effet de serre que sont le dioxyde de carbone et le méthane dont on a parlé plus tôt. Et on voit, grâce à ces carottes de glace, vraiment l'évolution naturelle de cette composition de l'atmosphère au cours des 800 000 ans avant aujourd'hui. Ensuite, dans les bulles d'air, on va trouver toutes les autres molécules qu'on a dans notre air actuel. Donc, ça va être des molécules qui vont nous donner des informations sur comment la biosphère, les plantes respiraient avant avec l'oxygène. On va avoir des informations pour dater aussi nos carottes de glace avec des gaz rares, par exemple. Donc, on va avoir vraiment toutes les informations, tout ce qu'il y a dans notre atmosphère actuelle.
Jérôme Chaplace, dans les glaciers de montagne aussi, on s'intéresse bien sûr aux bulles d'air dans la glace.
On s'y intéresse également, mais moins que dans les régions polaires, parce que, en fait, la façon dont ces petites bulles d'air se forment dans des conditions plus chaudes qu'en région polaire font que certains signaux, en fait, sont perturbés. Donc, on ne remonte pas avec la même qualité d'enregistrement que ce que l'on obtient à partir de la glace du Groenland et de l'Antarctique. Ceci ne retire en rien l'intérêt de ces forages dans les glaciers de haute montagne, parce que, comme ça a été expliqué auparavant, ça nous permet d'avoir une image beaucoup plus globale des processus à la surface de notre planète, ça nous permet, comme on dit, de spatialiser les informations. Ce n'est pas avec une carotte de glace forée en Antarctique, par exemple, que l'on pourra reconstituer l'évolution de la fréquence ou de l'intensité de feux de végétation au cœur de l'Amazonie. Or, avec le forage de l'Illimani, c'est effectivement ce que l'on espère pouvoir faire grâce à ce forage qui vient de se terminer il y a quelques jours.
Et je vous propose justement de repartir sur l'Illimani en Bolivie avec le chercheur Christian Vincent. On le sait, l'équipe était composée de nombreux chercheurs d'horizons très différents. Propos recueillis par Alice Campagnol.
Il y a beaucoup de spécialités, il y a beaucoup de disciplines parce que c'est un projet un peu multidisciplinaire. Il faut d'abord des chimistes qui soient capables d'analyser les éléments chimiques de la neige et de la glace pour retrouver la composition, reconstruire la composition atmosphérique de la neige et de la glace dans le passé, puisque c'est l'intérêt de ces carottages. Il y a des géophysiciens, un peu comme moi, qui mesurent la température de la glace, qui mesurent l'épaisseur du glacier. C'est important de connaître l'épaisseur du glacier pour connaître l'écoulement du glacier, puisque le glacier n'est pas immobile, hein, il flue, la glace flue, c'est un peu comme du yaourt. Donc c'est un bon moyen de dater, de simuler l'écoulement du glacier. Donc c'est un moyen de datation qui est important. Donc il faut faire de la géophysique pour connaître les épaisseurs de glace. Et puis il faut faire aussi de la topographie, c'est-à-dire pour mesurer l'écoulement du glacier, il faut faire des mesures GPS, donc c'est de la topographie GPS.
Des disciplines nombreuses et variées hein, pour étudier la glace. Jérôme Chaplaz, qu'étudie-t-on avec ces carottes? Tout à l'heure, vous nous parliez de l'évolution des feux de végétation. Que nous permet d'étudier les carottes?
Je dirais vraiment une palette extrêmement large d'informations. Joël Savarino mentionnait les volcans. Il disait que des petites gouttelettes de sulfate d'acide sulfurique tombaient dans la neige et nous racontaient l'histoire des volcans. Il n'est pas rentré dans le détail, mais il faut savoir qu'avec des nouveaux outils que justement Joël vient de développer, aujourd'hui on est capable de dire si une éruption volcanique a perturbé de manière majeure le climat de la Terre avec un panache volcanique atteignant les hautes couches de l'atmosphère, ou si au contraire ce panache est resté dans les basses couches de l'atmosphère, affectant finalement très peu le climat. Donc on arrive à rentrer dans un degré de détail aujourd'hui qui est assez fantastique et en même temps qui ne préjuge en rien de ce que les scientifiques de demain seront capables de faire avec de nouvelles technologies, avec de nouvelles idées. C'est une science en évolution. Je pense que si vous m'aviez interviewé il y a 30 ans, je vous aurais raconté une histoire beaucoup plus limitée de ce qu'on peut faire avec les carottes de glace. Et aujourd'hui, ça croît, ça s'enrichit. On se rend compte que finalement, ce milieu transparent qui nous donne une image finalement de blancheur infinie est extrêmement riche en informations. Et notre rôle de scientifique, finalement, c'est d'essayer de déchiffrer l'alphabet compris dans cette glace naturelle. On n'en est vraiment qu'aux premières lettres. Je suis très confiant qu'il y en aura beaucoup d'autres s'ajoutant à l'avenir.
Avec les carottes prélevées en Antarctique, à Maëlle Landais, on le disait, on peut remonter jusqu'à 800 000 ans en arrière. À quoi ça sert de remonter si loin, d'étudier les climats du passé?
Alors déjà, il faut savoir que l'homme était déjà là, il y a 800 000 ans, donc c'est intéressant de comprendre déjà le lien entre le climat et l'évolution humaine sur les 800 000 ans. Ensuite, si on regarde la variabilité naturelle du climat sur les 800 000 ans passés, on voit qu'elle a été principalement influencée par la variabilité de la position de la Terre par rapport au Soleil, ce qui a induit des variations naturelles entre périodes plus froides, des périodes glaciaires, où on avait justement des calottes de glace, pas seulement au Groenland et en Antarctique, mais aussi sur toute la partie Canada, Amérique du Nord, et puis la partie Sibérie, et puis Fennoscandie. Donc on avait ces énormes calottes de glace, et donc on a oscillé, en fait, dans les 800 000 ans passés, entre des périodes glaciaires, avec ces grosses calottes de glace, un niveau des mers 120 mètres plus bas que l'actuel, donc des terres émergées, et puis des périodes interglaciaires, comme notre période actuelle, avec une calotte principale en Antarctique et au Groenland, et puis des glaciers, somme toute réduits par rapport à ce qu'on avait en période glaciaire. Donc c'est important de comprendre, en fait, comment se sont enchaînées ces périodes glaciaires, interglaciaires, qu'est-ce qui a influencé ces changements naturels du climat pour pouvoir aussi prédire ce qui va nous arriver dans le futur.
On continue d'explorer les glaciers dans ces pas du vent, ces amas blancs majestueux. Le musicien Frank Zappa, lui, les voit jaunes. Don't eat the yellow snow, c'est tout de suite sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr. Dreamed I was an Eskimo. Began to blow. On
bit the ground below. It was 100 degrees below zero. And my mama cried. And my mama cried. Your money, don't go to the show. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. And the northern lights commenced to glow. And she said, a tear in her eye.
Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow.
Nous parlons des glaciers victimes du réchauffement de notre planète, malade de l'activité humaine, mais aussi vigie du climat. Pourquoi, Antoine Rabatel, les glaciers sont-ils d'aussi formidables témoins ?
Tout simplement par leur mode de fonctionnement, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure. L'accumulation de neige et de glace au fil du temps dépend des conditions climatiques, de même que à plus basse altitude, la fonte de cette même neige et de cette glace va elle aussi dépendre de ces conditions climatiques. Et d'une manière globale, on voit aussi qu'il y a une interaction entre le climat de la planète et l'étendue en superficie de ces calottes et de ces glaciers de montagne, puisque ces étendues qui sont blanches ont la capacité à réfléchir vers l'atmosphère et vers l'espace une grande partie du rayonnement solaire et qui arrive à la surface de la planète. Et on imagine bien que si cette surface elle diminue, cette énergie arrivant du soleil réfléchie vers l'espace va elle aussi diminuer, et au contraire celle absorbée par la surface de la Terre va pour le coup augmenter. Donc on a effectivement un lien qui est assez direct entre les glaciers et le climat de notre planète. Et
est-ce que vous avez des chiffres à nous donner par rapport à cette fonte des glaciers ?
Sur la période d'observation directe de ces glaciers, on a des informations depuis, on va dire, une cinquantaine d'années, avec des mesures annuelles, voire saisonnières, de ce qu'on appelle ces bilans de masse. Donc le bilan de masse d'un glacier, c'est être capable de quantifier si à l'échelle de l'année ou de la saison, le glacier a davantage gagné ou perdu de la masse. Et donc effectivement, on voit que la perte de masse des glaciers de montagne a extrêmement augmenté au cours des dernières décennies, avec une augmentation de cette perte de masse qui était d'ailleurs un peu plus précoce dans les Andes et d'une manière générale pour les glaciers tropicaux par rapport aux glaciers des latitudes tempérée, puisque cette accélération de la perte de masse elle s'est produite dès la fin des années 70, et au niveau des latitudes tempérées ça a commencé à se produire un petit peu plus tardivement à partir du fin des années 80, début des années 90. Et donc ces taux de perte de masse ils ont quasiment doublé au cours de ces deux à trois dernières décennies.
Et cette fonte des glaciers a de nombreuses conséquences, on imagine bien, et notamment sur le niveau des mers.
Oui, effectivement, c'est une des conséquences. On sait que le niveau des mers, au cours du XXe siècle, il a augmenté. On sait que cette augmentation, elle est liée à trois contributions principales. Une contribution qui provient de la fonte des glaciers de montagne. Une deuxième qui provient de l'évolution des calottes du Groenland et de l'Antarctique, dont on a parlé tout à l'heure. Et la troisième contribution qui correspond à ce qu'on appelle l'expansion thermique de l'océan, qui est liée au fait que le volume va augmenter avec l'augmentation de la température. Et ces trois contributions à l'échelle du XXe siècle, elles sont à peu près égales. Et dans les projections climatiques et les projections d'évolution des glaciers pour le XXIe siècle, donc pour les décennies à venir, on peut voir que la contribution des glaciers de montagne sera toujours assez importante, dans la mesure où effectivement ces projections climatiques sont très défavorables aux glaciers de montagne et donc vont continuer à perdre énormément de masse.
Et selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le niveau des mers s'est élevé à près de 20 cm entre 1900 et 2010. Et au XXIe siècle, donc notre siècle, cette élévation devrait s'accélérer et atteindre entre 40 et 66 cm supplémentaires.
C'est effectivement les scénarios qui sont proposés en fonction de l'évolution des conditions climatiques pour les prochaines décennies. Et donc ces évolutions, elles dépendront aussi de la capacité que nous avons, êtres humains, à limiter notre contribution à ces changements du climat, notamment via les gaz à effet de serre.
Et quelles peuvent être les conséquences de cette élévation du niveau des mers ?
En premier lieu, c'est le fait que les régions côtières vont être directement impactées, hein, puisque le niveau des mers augmentant, forcément, vous allez avoir un impact sur ce qu'on appelle le trait de côte. Donc avec des régions qui sont situées au niveau de la mer, ou même pour certaines sous le niveau de la mer, où il peut y avoir des terres qui seront du coup inondées. Et puis aussi un impact lors des grandes tempêtes, puisque si vous imaginez que le niveau des mers est un peu plus élevé, quand vous avez des grandes tempêtes, notamment au moment des grandes marées, ça peut impacter des zones à l'intérieur des terres qui soient plus importantes que celles impactées aujourd'hui. Et on sait que les zones côtières à l'échelle mondiale sont très fortement peuplées, donc potentiellement des impacts considérables d'un point de vue économique.
Amel Landé, vous aussi, vous vous intéressez à la fonte des calottes polaires ?
Oui, alors c'est la grande inconnue, en fait, c'est encore une fois l'Antarctique. Parce que l'Antarctique, il y a plusieurs projections qui existent pour le futur. Et on ne sait pas si finalement, dans le futur, la fonte de l'Antarctique va contribuer beaucoup ou pas à l'élévation du niveau des mers. Donc encore une fois, l'Antarctique est vraiment sous surveillance pour cette évolution. Autant le Groenland, c'est clair, on a un réchauffement vraiment global au nord, sur le Groenland, et là on voit qu'on va avoir une contribution à l'augmentation du niveau des mers. Donc pour information, si tout le Groenland fond, on va avoir une augmentation de 6 mètres du niveau des mers. Bon, on n'en est pas là, mais pour vous donner l'ordre d'idée de ce à quoi ça correspond. L'Antarctique, c'est beaucoup plus. Mais là, en fait, la grande inconnue, c'est de savoir effectivement s'il va contribuer dans les 100 ans à venir, beaucoup, pas du tout. Donc il y a vraiment des grandes inconnues encore scientifiquement sur l'évolution du bilan de masse de l'Antarctique.
Qu'il restera à anticiper. On y pense peut-être moins, mais la fonte des glaciers, Antoine Rabatel, peut aussi avoir un impact sur les cours d'eau en aval au bas des montagnes.
Oui, donc effectivement, dans les zones de montagne, les glaciers ont un rôle de réservoir, puisqu'ils vont accumuler de la neige pendant la période froide, par exemple l'hiver dans les Alpes. Et pendant la saison estivale, ils vont libérer une partie de cette masse accumulée pendant l'hiver, et également une partie de la glace du glacier va fondre. Et durant la période estivale, on a en général des conditions un peu plus sèches, un peu moins de précipitations. Et donc l'eau qui provient des glaciers va permettre de maintenir ce qu'on appelle un débit de base dans les rivières, qui s'écoulent donc depuis les montagnes vers les parties les plus basses. Et ce rôle tampon, si je puis dire, ou cette importance du réservoir qui est constitué par le glacier, il est d'autant plus important dans la région intertropicale, dans la mesure où on a des conditions climatiques qui sont différentes de celles qu'on connaît dans les latitudes tempérées. Et par exemple, en Bolivie, on a une saison sèche qui dure plusieurs mois de l'année, pendant lequel il y a extrêmement peu de précipitations, et où donc les glaciers ont un rôle important.
Donc on pourrait imaginer la formation de lacs, de poches d'eau en aval des glaciers qui fondent.
Effectivement, ça pourrait être une solution envisagée pour limiter les conséquences du retrait glaciaire, de stocker l'eau de fonte ou l'eau qui est précipitée pendant la saison des pluies, typiquement en Bolivie, via des barrages. Évidemment, tout ce type de mesures, ça a des coûts qui peuvent être importants. C'est des choses qui doivent être anticipées très largement à l'avance. Mais ça fait partie de solutions possibles.
Jérôme Chaplaz, quelle sera la prochaine étape d'Ice Memory ?
Alors pour Ice Memory, il y a encore beaucoup d'étapes. Il y a évidemment les étapes qui consistent à aller forer d'autres glaciers qui nous permettront d'augmenter le potentiel de cette bibliothèque. On a du côté français la perspective d'aller forer avec les Russes sur le glacier du mont Elbrouz dans le Caucase, entre la mer Noire et la mer Caspienne, et également le glacier du Mera au Népal. Ce sont nos prochains objectifs. Les enjeux après, c'est de mettre en place une gouvernance mondiale. C'est-à-dire que une fois qu'on a collecté ces carottes de glace, il va falloir les stocker en Antarctique sur le très long terme. Il va falloir en gérer l'utilisation sur le long terme. Et pour cela, en fait, on s'appuie sur l'UNESCO. L'UNESCO est la structure mondiale dans laquelle chaque gouvernement est représenté et a voix au chapitre sur la conduite d'une politique liée à la science qui nous intéresse.
Comment vous voyez l'avenir des glaciers dans le monde, donc dans les Andes, dans les Alpes et ailleurs ? On imagine bien qu'ils ne resteront pas dans l'état où nous les connaissons aujourd'hui.
il va effectivement falloir se faire à l'idée que le paysage de la fin du XXIe siècle sera très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et la cryosphère, comme on dit, c'est-à-dire l'ensemble des zones où l'eau est à l'état solide à la surface de la planète, que ce soit les étendues neigeuses, que ce soit les sols gelés ou que ce soit les glaciers, vont être profondément impactés. Alors, comment prendre cela ? On peut dire que le climat a changé à toute époque, ce qui est juste, et qu'après tout, le monde que l'on connaît aujourd'hui n'a pas de raison d'être figé à tout jamais. Mais quand on sait qu'à l'origine de cette évolution des paysages et de ces milieux, c'est l'activité humaine même, eh bien, on s'interroge. On s'interroge effectivement sur la responsabilité de notre génération, des générations qui nous ont précédés et ce que l'on lègue aux générations futures.
On ne pourra pas empêcher la fonte de nos glaciers. Par contre, on pourra au moins en préserver les archives. Et nous continuerons de suivre ce projet de sauvegarde de mémoire de la glace, bien sûr, sur la Radio du Monde. Merci à vous, Amel Landais, d'être venu dans notre studio. Merci également Jérôme Chaplaz et Antoine Rabatel depuis les studios de France Bleu Isère. Saluons également François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Et puis, merci à vous pour votre écoute. La semaine prochaine, nous gagnerons quelques degrés, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque nous évoquerons la désertification en cours, notamment dans les pays du Sahel et son lien avec le changement climatique. À la semaine prochaine, avec la même curiosité et le même plaisir.